RCF.
Que va-t-il advenir de l'Église ? Faut-il réformer l'Église et par où commencer ? Ne s'agit-il pas plutôt de revenir en priorité à la source ? Eh bien, ces préoccupations font l'objet d'une réflexion que mène Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, dans un ouvrage intitulé « Le salut de l'Église et dans sa propre conversion » publié aux éditions Salvator. Mgr Doré, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait vos adieux au diocèse de Strasbourg en avril 2007. Vous êtes théologien et vous êtes plus particulièrement intéressé par la christologie. On pourrait dire que votre sujet d'étude, c'est Jésus. Et c'est justement à travers lui que vous vous interrogez sur ce qu'il advient de l'Église. Alors, avant de poursuivre et puis d'entrer dans le détail de votre ouvrage, je reviens sur ce titre. Le salut de l'Église est dans sa propre conversion. Avant de voir comment peut perdurer notre Église, l'institution, mais surtout la foi qu'il apporte, ses fidèles, je me demandais, avant d'ouvrir votre livre, au fond, que faut-il impérativement sauver de l'Église ?
La mémoire de Jésus. L'Église n'existe pas indépendamment de Jésus, de l'envoi que Dieu a fait de son Fils en Jésus, de l'appel qu'à travers cela il adresse aux hommes de bonne volonté, en les invitant à une perspective de reconnaissance mutuelle, de service mutuel, d'espérance et de joie, de fête. Et l'Église n'existe que de cette envoi par le Père de son Fils pour nous ouvrir un horizon de salut. Le terme important est lâché. Et ça n'est pas possible indépendamment d'une référence constante, jamais oubliée, toujours revivifiée à Jésus.
Mais est-ce que paradoxalement, on n'a pas oublié ce cœur de la foi, ce qui doit être aussi le cœur de l'Église ?
Oui, oublié jamais complètement. Mais pas toujours traité comme la source, la force, la lumière, l'énergie, à partir de laquelle tout doit s'analyser, tout doit se concevoir et tout doit se construire.
Donc pas toujours à la bonne place.
Pas toujours à la bonne place, pas toujours de la bonne manière et pas toujours assez fondamentalement.
Alors que veut dire aujourd'hui être de l'Église ? Est-ce que ça a un sens de dire faire Église ? Déjà, cette expression est un peu curieuse, faire Église.
Bien, le verbe « faire » veut désigner qu'on ne sera pas, on n'appartiendra pas à l'Église indépendamment d'une démarche personnelle, d'une décision qu'on aura faite, d'une volonté d'appartenance. Et du coup, jusqu'à un certain point, et là commence un certain nombre de questions et d'interpellations, jusqu'à un certain point, indépendamment d'un engagement. On n'est pas simplement de l'Église parce qu'on a été inscrit sur un registre de par la volonté de ses parents, qui avaient certainement l'intention qu'on fasse dans l'Église plus que simplement de figurer sur un registre, mais qui anticipait sur ce qui allait être la vie de cet enfant qui est inscrit parce qu'il est baptisé. Il compte définitivement parmi ceux que l'Église devra tenir pour ses membres, mais à lui de décider de la manière dont il honorera la décision que ses parents ont prise en son nom, et puis l'ensemble des moyens qu'il aura eu, qu'il se sera donné, de s'éclairer sur ce que ça signifie qu'en effet d'être chrétien, d'être rattaché à Jésus, et de le faire dans une communauté qui s'appelle l'Église. Alors il y aura des découvertes, il y aura des réticences, il y aura des critiques, il y aura des distances prises, il y aura tout ça, c'est comme ça qu'on vit. Mais on sera chrétien par la volonté qu'on manifeste de l'être, de le rester, d'apporter sa contribution, y compris de manière éventuellement critique, distancée, mais toujours responsable.
Vous, cet engagement, vous l'avez honoré en devenant prêtre il y a 60 ans. On va revenir justement sur votre expérience personnelle parce que c'est aussi une des sources de votre livre, votre expérience à vous de l'Église. Alors elle est de plusieurs temps, elle est celle d'une évolution aussi de l'Église. On peut le redire, vous avez 85 ans, vous êtes né en 1936 à une époque où le christianisme imprègne la vie sociale, la vie relationnelle. Et ce parcours, eh bien, il vous inspire aussi. Vous dites que l'Église a nourri les enthousiasmes de votre jeunesse. Qu'est-ce que vous retenez précisément de cette Église et qui pourrait aujourd'hui nous inspirer ?
D'abord, c'était une ambiance. Nous allons célébrer bientôt Noël. Et quand je pense à mon enfance et à la place qui tenait Noël, la fête de Noël, je me dis que j'étais heureux d'être né, d'avoir été entretenu, formé, accompagné dans cette vision du monde. Et je retiens donc l'idée que Le monde n'est pas que méchant, le monde n'est pas que difficile. Le monde peut, à certaines conditions, être aussi, disons, l'objet d'une attention. On peut en recevoir beaucoup. Ça passe à travers les parents qu'on a pu avoir, le climat dans lequel on a vécu. Et il se trouve que le climat dans lequel j'ai vécu, moi, était un climat catholique d'une paroisse, disons, d'il y a 80 ans et depuis. Et qu'au fond, on y trouvait beaucoup de choses positives. Il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, il y avait des choses difficiles, des choses auxquelles on résistait. Mais globalement, ce qui, à ces stades originels de ma foi et dans les premières années de ma jeunesse, m'a porté, c'est l'idée que, malgré les duretés du monde, nous étions en 1900, je suis né en 1936, malgré les duretés du monde, il y avait pour nous une bienveillance.
Quand vous dites pour nous, c'est qui ?
Eh bien, ma famille, le monde dans lequel je vivais, qui était un monde limité, rural, soumis à toutes sortes de restrictions et de contraintes. C'était un monde très limité, mais le monde de la famille, le monde de l'environnement immédiat, était un environnement dans lequel nous avions tout pour exister et, malgré les épreuves, exister heureux. Parce qu'accompagné, parce que pas abandonné, pas détruit, pas... Voilà.
Et puis alors après, vous avez fait partie des prêtres qui ont porté la soutane, vous avez chanté en grégorien, vous avez eu les...
au moins 100 pièces grégoriennes par cœur encore.
Voilà. Vous avez célébré la messe selon le rite de Saint Pie V, dos au peuple, vous avez étudié Saint Thomas d'Aquin, vous avez célébré la messe en latin, et puis aujourd'hui, eh bien, les églises sont presque trop vastes, les maisons religieuses sont parfois vides. Quels moyens l'église, d'après vous, a mis en place justement pour répondre à ces évolutions ?
C'est-à-dire l'évolution que vous désignez, c'est celle qui fait qu'on passe d'un monde où on était à l'aise, on était heureux, entretenu, assuré, conscient de pouvoir avoir une espérance pour l'avenir, à un monde, et tout cela à cause de l'ambiance liée à la foi des chrétiens, leur rassemblement en église, en paroisse, dans des mouvements, avec toute une littérature au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai élargi mon horizon, et j'ai découvert que plus j'allais loin, plus je regardais autour de moi, plus j'avais des moyens d'être éclairé dans ma vie, parce que les chrétiens autour de moi me communiquaient de différentes manières, et à l'échelle finalement d'une culture.
Alors, il y avait aussi des intellectuels chrétiens.
Bien sûr, il y avait...
Lesquels vous ont inspiré ?
Bernanos, Mauriac, Claudel, et puis ça c'est pour les grands littérateurs, les grands reconnus comme des écrivains majeurs, mais il y a eu aussi des philosophes, il y a eu des artistes, il y a eu tout un tas d'auteurs que j'ai lus régulièrement, qui m'ont entretenu dans une perspective, au fur et à mesure que des questions naissaient en moi, que des difficultés surgissaient, j'avais le moyen, en lisant Jean Lacroix, Pierre-Henri Simon, je peux citer des philosophes, Blondel, Maritain, on était entouré. Ce n'était plus le monde de mon enfance. Encore que, il n'y avait pas de distance considérable par rapport à celui-là. Il y avait des moyens plus importants d'en comprendre le sens, d'en voir l'intérêt et de mesurer les raisons de l'intérêt qu'il présentait. Et c'est un peu tout ça qui a eu moins de résonance pour moi comme pour beaucoup. Beaucoup de gens n'ont pas été en contact avec cela ou ont été intéressés par d'autres aspects, ont été progressivement aussi en résistance à un certain nombre d'effets qu'il faut bien dire moins positifs du système chrétien et catholique. Et du coup, plus nous sommes allés, plus on s'est aperçu que l'Église avait continué à fonctionner, certes, mais un peu trop sur elle-même, à partir de convictions qu'elle n'acceptait pas de voir remises en cause, alors qu'un nombre croissant de ceux qui jusque-là l'avaient écoutée s'interrogeaient et n'étaient plus d'accord, prenaient leur distance, quelquefois de manière déclarée, forte, violente même, d'autres fois en glissant dans un certain désintérêt de fait, avec l'idée que, au fond, l'Église c'était quelque chose qui avait été bien, qui était pas mal, mais c'est plus pour nous. D'ailleurs, on voit pas ce qu'on pourrait en recevoir.
Est-ce que, quand on parle de réforme, est-ce qu'il s'agit de tout bouleverser ? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un retour aux sources ?
Non, il ne s'agit pas de tout bouleverser. La révolution n'est pas comme telle une solution. Elle souligne avec force que ça ne peut pas continuer, mais elle ne fournit pas comme telle les moyens que ça continue en effet. Car il faut bien que quelque chose continue. Et donc, on a eu des interprétations de Vatican II, puisque ça a été une grande opération sur laquelle on reviendra peut-être, par laquelle l'Église a essayé justement tout entière de faire face à ce devenir qu'on a trop rapidement décrit, mais qui saute aux yeux, à savoir une adhésion assez large avec beaucoup de membres confiants, engagés, à une distanciation prise par un nombre croissant de membres. Il y a eu donc cet écart-là. Vatican II a été une grande tentative pour essayer de rapprocher ceux qui s'écartaient ainsi. Vatican II s'est voulu un aggiornamento, une mise au clair. Comment ? En retournant effectivement à des sources. Pas en se contentant d'éliminer ce qu'on désignait à juste titre comme impraticable, insupportable désormais, voire infructueux, et ou plus digne d'un intérêt réel, pas seulement supprimer donc, mais proposer, revenir, et proposer quoi ? Bien, proposer ce qui fait l'identité justement du christianisme depuis son origine, et l'origine étant Jésus, l'origine étant toute une tradition qui a éclairé ce qu'il en était de Jésus, qui a fait vivre des générations avant nous, nous pouvons nous réinspirer de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, car eux-mêmes, mutatis mutandis, avec des éléments qui changent, ont été soumis à des interrogations, ont eu à faire face à des crises. À travers toute l'histoire, l'Église n'a subsisté qu'en réveillant sans cesse, par rapport à ses sources, l'élan qu'il avait lancé.
Et cet élan, c'est Jésus.
Cet élan, c'est Jésus, voilà.
Merci, on y reviendra dans la prochaine émission, justement, sur Vatican et cette réforme, cette interpellation de l'Église dans son lien au monde et à la société. Merci, Monseigneur Joseph Doré.